Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Churchill, homme d'État ou prophète ?
Monsieur Winston Churchill, le bruit court que vous étiez détesté dans l'armée. Où dit-on, vous aviez la réputation d'un chasseur de décorations avide de publicité et d'un aventurier arriviste, agressif et intrigant.
Néanmoins, les arbres solitaires, s'ils arrivent à croître, deviennent robustes.
Oui, vous avez lu ça quelque part.
Non, je l'ai écrit quelque part.
Je l'ai écrit quelque part. Il comptait bien que l'histoire lui serait favorable puisqu'il avait pris le soin de l'écrire lui-même. Il avait cependant un regret, son père, Randolph, qui n'avait pas de considération pour lui, n'avait pas connu son apothéose. Alors il a imaginé une scène. Winston est dans son manoir en train de tenter de peindre Lord Randolph lorsque celui-ci apparaît. Le père demande au fils des nouvelles du présent. Les conservateurs sont toujours au pouvoir, n'est-ce pas ? Non, ce sont les socialistes. Les socialistes ? Il n'y a pas eu de guerre, j'espère. 6 pères, 2, avec des dizaines de millions de morts. Randolph se tasse alors sur son fauteuil et il lance. Et je te vois là, Winston, à 70 ans passés, en train de barbouiller des toiles qui ne vont pas se vendre. Je me demande bien pourquoi tu n'as pas fait de politique. Tu aurais au moins pu être utile à quelque chose et peut-être te faire un nom. Puis, raconte Winston, la figure du père a disparu. J'avais laissé mon cigare s'éteindre et ses cendres recouvraient les couleurs de la toile. Ce texte date de 1947, mais si la scène avait eu lieu en 1937, par exemple, Winston était alors hors-jeu depuis longtemps. Les Anglais ne le jugeaient pas comme un vrai homme d'État, trop imprévisible. Serait-il seulement resté comme un prophète ? Il s'était trompé tant de fois.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Antoine Capet, professeur émérite, depuis peu, de l'Université de Rouen. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on a beaucoup à apprendre encore sur Winston Churchill. Vous avez publié chez Talendier une traduction des mémoires de la Grande Guerre qu'il a rédigée. Et puis, vous venez de traduire la correspondance qu'il a eue avec son épouse Clémentine depuis 1968 jusqu'à 1964. Alors, Dominique Boulonnais traduisait Clémentine et vous, vous traduisiez Winston.
Oui, absolument, la répartition des rôles, et on s'est bien amusé, donc mon chéri, ma chérie, etc.
Je remercie votre épouse de vous avoir emmené en voiture aujourd'hui de Rouen, alors que les trains ne fonctionnaient pas, qu'elle
donc,
le sache.
Il s'envoyait des petits poulets, mais pour rebondir sur une chose que vous venez de dire, en disant qu'il y a toujours des nouvelles choses à dire sur Churchill, et le prophète, le père n'était vraiment pas prophète, parce que des toiles qui ne se vendront pas, tout le monde sait qu'au mois de décembre, il y a eu une énorme vente à Sotheby's, et son bassin aux poissons rouges du manoir de Chartwell s'est vendu 1 700 000 livres.
Antoine Capet, cette correspondance, elle est étonnante parce qu'elle donne des nouvelles du manoir de Chartwell quand l'un ou l'autre n'y est pas, parce qu'elle dure très longtemps. Et puis, elle témoigne quand même d'un fort attachement. Lady Astor avait dit une fois à Winston, « Monsieur Churchill, si j'étais votre femme, je verserai du poison dans votre café. » À quoi il avait répondu ?
À quoi il avait répondu ? Eh bien, si j'étais votre mari, je le boirais. Ce qui est d'ailleurs curieux, c'est qu'il parle de café. Et pourquoi ? Parce que ça surprend de la part de deux Britanniques. Mais Churchill ne buvait jamais de thé. Il disait, le thé, c'est pour ma femme.
Oui. On ne va pas parler de sa consommation d'alcool, parce qu'on peut tenir des propos régulateurs et modérer les excès des commentaires sur ce sujet. Alors, la première lettre, 1908, elle se termine par une formule qui pourrait illustrer en exergue toute notre émission.
Oui, absolument, c'est très intéressant. Donc, ils ne sont même pas encore fiancés, simplement, ils se sont revus. Ils s'étaient vus 4 ans auparavant et apparemment, le courant, comme on dit, est passé ces deuxièmes fois. Bref, il lui écrit une lettre, mais une lettre qui n'est pas du tout une lettre d'amour et qui se termine en fait par des réflexions philosophiques qui aujourd'hui d'ailleurs seraient malvenues à l'oreille des femmes en disant « Mais vous, les femmes, vous êtes trop rigoristes, le monde n'est pas noir et blanc ». Et ce mot très fort, la nature n'a pas tiré une ligne noire, et elle a tiré une ligne noire avec des bavures. C'est-à-dire, rien n'est jamais net, rien.
Sa valeur, il met du temps à la prouver devant les femmes. Il est un peu timide devant certaines femmes, mais alors, dès qu'il peut rejoindre une guerre, comme officier ou comme correspondant de presse, alors là, on peut compter sur lui.
Oui, alors, il a, certains ont la fibre enseignante, lui, il avait la fibre, non pas militaire, je dirais, mais la fibre de meneur d'homme. C'est à la fois aventurier et meneur d'homme. Donc, quand on a 18 ans, on ne peut pas encore être Premier ministre, par définition. Mais à 18 ans, on peut connaître l'aventure impériale, l'aventure coloniale et évidemment les guerres. Certains cherchent à se planquer, mais pas lui. Il demande instamment à être envoyé au Soudan, après avoir été combattre les Pachtounes, qui étaient considérés comme des rebelles absolument féroces par les Britanniques à la frontière afghane. Il demande expressément, et il fait des pieds et des mains, il fait intervenir sa mère pour qu'on l'envoie au Soudan, où il va aller combattre les derviches, qui sont des gens tout aussi redoutables.
Et il croit profondément, Antoine Capek, que l'histoire, elle est faite par des hommes exceptionnels et que ce sont les guerres aussi qui font l'histoire. Il n'y a que les vieilles filles qui signent des pétitions qui croient le contraire.
Alors absolument, et c'est un autodidacte parce qu'il n'est jamais allé à l'université, contrairement aux jeunes gens de sa génération et de son milieu, mais c'est devenu un lecteur absolument avide, justement quand il était posté dans aux confins de l'Empire, et il se faisait envoyer, on a les lettres qu'il a envoyées à sa mère, où il avait une liste de lectures absolument incroyable, et à certains de ses généraux, il conseillait de lire Plutarque. C'est-à-dire, justement, ce que vous
venez
d'évoquer.
Vie des hommes illustres.
Voilà.
Il a quand même une conception assez aristocratique de la vie. Cependant, il faut se présenter aux élections. Vous savez, des petits hommes qui rentrent dans un petit isoloir avec des petits crayons, ils font une petite croix sur une petite feuille de papier et ils élisent ou non. Premier essai raté, 18 mois plus tard, au tout début du XXe siècle, il est élu.
Pensez-vous voilà. Pas qu'à notre époque, il n'y a pas de place en politique pour des jeunes gens riches et privilégiés ?
Je ne suis pas un jeune homme riche. Je vis de ce que je gagne, et je subviens aux besoins de ma mère et de mon jeune frère.
Mais pour quelle raison au juste voulez-vous vous présenter au Parlement ?
Pour pouvoir servir le pays.
Et pour vous pousser vous-même en avant ?
Oui. Est-ce que vous voyez du mal à cela ?
Est-ce que vous voyez du bien à cela ? Qui êtes-vous pour aspirer à être du plus fameux Parlement du monde ? Qu'avez-vous à offrir à part votre personne et vos ambitions ?
Rien sauf moi-même. Je crois fermement en moi-même, comme je crois en ma destinée.
Vous avez consulté une diseuse de bonne aventure dernièrement ?
Justement, j'en ai consulté une. Elle est d'accord avec moi. Est-ce que c'est un crime d'avoir 24 ans ?
Non, pas du tout.
Que dois-je faire, d'après vous ? Jouer à des petits jeux ? Me laisser voir sans me faire entendre ? Me boucher les yeux et les oreilles ? Rester toujours un enfant ? Faut-il toujours nous laisser mener par des vieux pontes ? Est-ce que tous les vieux routiers de la politique n'ont pas trahi les merveilleuses idées qu'ils défendaient dans leur jeunesse ? Et par ce fait même, trahi la nation entière ? Je dis qu'il y a de la place pour un jeune homme, sinon pour plusieurs au gouvernement.
La version française du film de Richard Attenborough consacré au John Winston qui va s'affronter aux électeurs. Alors, il est populaire. Il sait parler aux électeurs.
Oui, il sait parler aux électeurs. Alors, c'est une de ses caractéristiques extraordinaires au sens propre, c'est-à-dire que peu de gens de son milieu savent parler au peuple comme lui. Si on prend les conservateurs Balfour et plus tard Chamberlain, ce sont des gens qui restent extrêmement distants. Lui, pour une raison qui est inexplicable, hein, les affinités électives, réussit à persuader les électeurs qui s'intéressent à leur sort.
Mais il va défendre parfois la législation sociale, et en même temps, il dit « J'ai été élevé dans un monde qui se plaisait à admettre que les hommes naissaient inégaux. » Inégaux.
Alors, il accepte tout à fait l'inégalité, mais c'est un petit peu, si vous voulez, l'idéal des Lumières, qui reconnaît l'inégalité des talents. Non pas l'inégalité juridique, bien sûr. Ça serait, à ses yeux, ridicule de nier l'inégalité des talents. Mais son idée, bien sûr, c'est qu'il ne faut pas brider les talents. Et si quelqu'un vient du bas peuple et qu'il a du talent, il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas, bah, comme on disait en France, son bâton de maréchal dans sa giberne.
Alors, c'est un homme qui a des contradictions. Il va être conservateur, puis libéral de nouveau. Conservateur, partisan d'une législation sociale, jamais socialiste. Moi, j'aime beaucoup cette définition des socialistes. Je la livre à certains de nos auditeurs. comme Christophe Colomb, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas où ils se trouvent, et malgré tout, eh ben, ils font ça aux frais des autres.
Oui, alors, le socialisme confiscateur, ça sera un thème toute sa vie. Et d'ailleurs, vous venez de parler de sa première élection. Dans ce Parlement qui est dominé par les idées nouvelles au début du XXe siècle, la première décennie du XXe siècle, il a une chose extrêmement juste, dans le contexte de l'époque, bien sûr, en disant « Le socialisme cherche le nivellement par le bas. Nous, les libéraux, il vient de rejoindre les libéraux, nous cherchons le nivellement par le haut. »
Enfin, sa politique libérale, quand il sera chancelier de l'échiquier, parce qu'il lui arrive d'exercer des responsabilités qu'il est incapable d'exercer, l'économie pour moi c'est du chinois, expliquait-il, mènera autour de 1929 à des résultats qui ne seront pas nécessairement brillants. Mais je reste sur le thème de l'inégalité. Alors il faudrait beaucoup de temps pour parler de l'Empire. Dans la conversation avec son père, le fantôme qui revient en 47, le père lui demande « Et alors l'Inde ?» La Birmanie, ça va. Hélas, nous les avons perdus, répond Winston, qui dans sa jeunesse expliquait à son père qu'il allait consacrer sa vie à l'Empire.
Mais... Oui, alors le gros problème, bien sûr, c'est l'impérialisme avec tout ce que ça comporte, notamment du point de vue idéologique et jusqu'au point de vue raciste. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il croyait à la carrière ouverte au talent, et pour lui... C'est pas vraiment une question de race, je crois, fondamentalement. C'est une question de culture. Il y a des cultures qui permettent l'épanouissement de l'individu. Il y en a d'autres qui ne permettent pas l'épanouissement de l'individu. Et pour lui, les races blanches, anglo-saxonnes, etc., leur mission fondamentale, c'est d'ouvrir le monde à ses perspectives de progrès individuel.
On ne peut pas dire que l'Inde ne soit pas une grande civilisation. Et néanmoins, Churchill considérait Gandhi, son contemporain, voici Gandhi organisant en 1930 la marche du sel, comme un fakir malfaisant.
A besoin de sel, comme il a besoin d'air et d'eau. Ce sel, justement, provient de l'océan Indien. Donc, chaque Indien peut le réclamer comme son dû.
Le sel ?
Oui, il va faire une marche jusqu'à l'océan et ramasser le sel.
Il y a un monopole royal sur la fabrication du sel. Il est illicite d'en produire ou d'en vendre sans en avoir obtenu licence.
Eh bien, il enfreint la loi.
Sous ces climats, monsieur, on ne vit pas si l'on n'a ni eau ni sel. En avoir l'absolu contrôle, c'est donc contrôler le pouls de l'Inde.
Et c'est cela la base de cette fameuse déclaration d'indépendance.
Oui, monsieur, et le jour du grand départ, en principe, chacun brandira le drapeau de l'Inde libre. Ensuite, il fera une marche de 400 km jusqu'à l'océan pour recueillir le sel.
Ignorons-les. Monsieur Gandhi découvrira qu'il faut infiniment plus qu'une pincée de sel pour mater et abattre l'Empire.
L'Empire ! Un autre film de Richard Attenborough, celui consacré à Gandhi. C'était une erreur de la part de Churchill de considérer l'Inde comme un pivot absolument indispensable au maintien d'une histoire des peuples anglophones.
Bon, alors comme vous le savez, évidemment, de nombreuses biographies ont été écrites sur Churchill. Donc il y a toutes les biographies freudiennes sur son rapport avec le père. Et il y a les biographies qui le présentent comme un romantique. Et pour lui, l'Empire, c'était l'aventure britannique. C'était de même que les Américains parlent de leur destinée manifeste, la conquête de leur continent. Pour les Britanniques, aux yeux de Churchill... c'était justement faire parvenir les lumières à tous ces peuples qui vivaient dans l'obscurantisme. Et pour lui, Gandhi ne faisait pas parvenir les lumières. Gandhi était un réactionnaire au sens propre du terme, puisque rappelez-vous que Gandhi, et d'ailleurs c'est devenu l'emblème de l'Inde, Gandhi avait sa roue, il filait comme quoi ? Bah, comme au Moyen-Âge. Or Churchill avait une horreur, une sainte horreur du retour au Moyen-Âge.
Convenez quand même, Antoine Capet, que l'alarmisme dont il a fait preuve face à Gandhi ne va pas servir ses desseins à Winston Churchill quand il tirera le signal d'alarme en 1938. On n'en est pas encore là. Je vais vous faire écouter une pièce de musique de 1934, Yvonne Printemps, qui tente de chanter avec succès d'ailleurs en anglais dans une comédie qui lui a été écrite par Noël Coward. Juste un mot du Churchill des années 30 qui apparaît dans votre correspondance, publiée chez Talandier, votre correspondance intime. Clémentine et lui... Ils sont sur la Côte d'Azur, ils sont à Marrakech, ils sont en voyage sur la mer, ils sont dans le manoir de Chartwell. Ils sont rarement à Londres.
C'est exact. Eh bien, c'est la vieille tradition de la noblesse britannique qui va à Londres pour la saison, et c'est-à-dire les bals, les plaisirs et bien sûr le Parlement. Donc en dehors du Parlement, en dehors des sessions du Parlement, il n'est pas à Londres.
Il parle bien français quand il est en France.
Alors ça, les avis divergent.
Alors vous allez voir si Yvonne Printemps se sort bien de l'épreuve qui lui a été imposée en 1934.
Do not be silly.
C'est vrai. It seems that all the joy has faded from the day. As though the foolish ones no longer want to play.
Do go and dress, Melanie.
What shall I wear? A black crepe with a lace bonnet?
What is the matter with you this morning?
Wait for a bride. But the sun ought to shine on a bride.
You are not a bride yet.
But I shall be soon, shall I not? A very quiet, aristocratic bride with a discreet heart. You ask me to have a discreet heart until married is out of the world. But what if I meet with a sweet after sweet that may we will kill us of them? If single one that you may find,
then we shall have to go away.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et le thème aujourd'hui avec Antoine Capet, nous sommes 50 ans après sa disparition, Winston Churchill, prophète, homme d'État.
Je le dis humblement, depuis que je fais partie de cette assemblée, j'ai été maintes fois étonné de constater avec quelle désinvolture et avec quel sang-froid ses membres et même des ministres traité d'une guerre européenne future. Je tiens à le dire devant vous, nous ne devons pas envisager une guerre moderne comme une sorte de jeu auquel on pourrait se mêler et dans lequel, avec une certaine chance et une habileté suffisante, on pourrait essayer de gagner pendant une soirée et lorsqu'on jugerait que cela suffit, rentrer tranquillement chez soi avec ses gains. Oh non, monsieur le président, ça n'a plus rien d'un jeu, la guerre. Un conflit européen ne pourra être autre chose qu'une guerre sans merci et cruelle. Une lutte qui, même si nous devions un jour jouir des fruits amers de la victoire, absorbera fatalement, peut-être pour plusieurs années, toute la production de la nation et qui exigera la suspension complète des industries de paix et la concentration vers un but unique de toutes les activités vitales de la communauté.
On sent dans ce discours l'expérience de ministre de l'armement qu'en 1917, Winston Churchill a eu à Londres. Il avait été auparavant, je parle du premier conflit mondial, lors de l'amirauté, avec des succès divers. Il est un des responsables de l'expédition catastrophique des Dardanelles en 15. Il avait été aussi un poilu fort, courageux, d'autant que quand on est en première ligne sur le front français, on peut boire de l'alcool. Mais ce n'est pas notre sujet, Antoine Capet. Les guerres telles que les envisage après 1918 Winston Churchill. Le premier ennemi pour lui, c'est le bolchevisme.
Oui, alors là-dessus, en fait, Lloyd George, qui est le Premier ministre à la sortie de la guerre, de la Première Guerre, a un mot d'esprit en disant son ascendance ducale, parce qu'il est le successeur lointain du duc de Marlborough, son ascendance ducale ne peut pas supporter qu'on ait exterminé les grands-ducs de Russie. Bon, c'est anecdotique, mais en même temps, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour lui, le bolchevisme éteint le talent individuel. Donc, il pense que c'est une forme une nouvelle forme d'oppression absolument tyrannique et encore bien plus insidieuse que les autres, parce qu'elle se fait au nom du peuple. Donc il a tout un vocabulaire tiré de la médecine pour parler de Lénine, qu'on a trimballé comme un bacille depuis la Suisse jusqu'à la Russie dans son wagon blindé, un bacille pour instiller le poison à la Russie. Il parle également, il a aussi des images animales, les babouins. Le bolchevisme étant, je forge le mot français, du babouanisme. Enfin bref, il a les pires mots pour dénoncer le bolchevisme.
Alors que sur le fascisme de Mussolini, du moins quand Mussolini prend le pouvoir, et dans les 10 premières années, il a souvent des commentaires flatteurs.
Absolument, absolument, mais là aussi, il va falloir faire une petite distinction. Donc, là, il y a quelque chose de très embarrassant pour les hagiographes de Churchill, c'est qu'il décrit à la fin des années 20 Mussolini comme le plus grand législateur depuis les Romains. Bon. Mais il y a une mise en garde. Mais attention, ce que je dis ne s'applique qu'aux Italiens. Il n'est pas question d'importer le fascisme en Grande-Bretagne.
Mais quand l'Italie envahit l'Éthiopie, 1936...
Un grande evento si compie, viene suggellato il destino dell'Etiopia oggi, 9 maggio, 14° anno dell'era fascista. L'Italia ha finalmente il suo impero.
Rome, mai 36, sur chez Lydie, il ne faut pas écraser l'Italie qui écrase l'Éthiopie.
Non, parce que Churchill est un suprême joueur d'échecs, est un suprême géopoliticien, comme on ne disait pas à son époque. Et il a très bien vu que l'Italie serait un allié extrêmement précieux dans la guerre qui ne manquerait pas d'arriver contre l'Allemagne, et notamment, évidemment, pour ce que Churchill a toujours appelé le ventre mou de l'Europe. Et si on avait la chance d'avoir l'Italie de notre côté, et notre, c'était les Britanniques et les Français, on avait quand même une possibilité bien plus grande de verrouiller la Méditerranée.
Oui, le géopoliticien génial que vous décrivez, quand on voit la correspondance avec sa femme que vous éditez, guerre d'Espagne, Franco et les nationalistes, ça vaut mieux pour la sécurité de tous si les communistes sont écrasés.
Oui, mais pour lui, ça voulait dire en fait que les communistes soient écrasés par un parti républicain qui n'existait pas, mais dont il souhaitait la création. C'est toujours l'éternel problème, c'est-à-dire que c'est facile de démolir, c'est moins facile de créer. Donc il est prêt à tout, ou presque, pour démolir le communisme. En espérant que si on démolit le communisme, on pourra faire émerger un système plus démocratique quand même.
Alors, à Hitler, il reconnaît le droit de remonter l'Allemagne de l'abîme. Je le cite. En même temps, il comprend qu'on ne veuille pas laisser les Juifs prendre tous les pouvoirs. Mais pourquoi est-il si furieusement contre les Juifs, cet Hitler, se demande-t-il néanmoins.
Oui, alors Churchill est ce qu'on appelle un philosémite très tôt. Vous avez parlé tout à l'heure de sa première circonscription où il a été élu. Il y avait une communauté juive et il avait appris à connaître cette communauté juive. Il la voyait sous un aspect extrêmement positif. Là encore, la carrière ouverte au talent, c'était des gens extrêmement industrieux qui travaillaient beaucoup, qui travaillaient dur, qui espéraient que l'avenir de leurs enfants serait meilleur que le leur. Bref, il a une admiration pour les Juifs. Et ensuite, juste après la Première Guerre, quand il est allé en Palestine, il a toujours soutenu le sionisme. Il a été absolument émerveillé en voyant les oranges. Il a un passage absolument merveilleux où il dit là où il n'y avait que de la caillasse, aujourd'hui nous avons ces merveilleuses oranges avec ces merveilleux enfants joufflus.
Tandis que la haine des Juifs de Hitler lui fait comprendre que par système concentrique, il faudra boire jusqu'à la lie. La ciguë qu'il offre à l'Europe, je le cite, 1938,
oui,
retour de Munich,
voilà, c'est ça.
De Chamberlain.
Oui.
La résolution du problème tchécoslovaque n'est, selon moi, que le prélude à une résolution à long terme dans laquelle toute l'Europe pourrait trouver la paix. Ce matin, j'ai de nouveau discuté avec le chancelier allemand, M. Hitler, et voici le document qui porte son nom et le mien.
Il y a un système à la radio anglaise, tendre la perche, ça se dit comment ?
To give a cue.
C'est pas la peine de donner le discours de Chamberlain. Donnez-nous plutôt la tonalité du propos en réponse aux communes de Churchill, simple député.
Alors, Churchill, simple député, prend part au grand débat qui a lieu à la suite de ce retour triomphal de l'avion à Heston, qui est à l'époque le terrain d'aviation de Londres. Il faut quand même que je dise, vous me donnez une seconde, que... Churchill va être bien seul, parce que à la suite de ce discours triomphal qu'on vient d'entendre, Chamberlain va recevoir les félicitations non seulement du roi, mais chose qu'on ne dit pas souvent du président Roosevelt. Il a sauvé la paix. Bref, Churchill va mettre les pieds dans le plat. Débat au Parlement le 5 octobre 1938. Vous avez cité les dernières, vraiment les tout derniers mots, boire la coupe jusqu'à la lie ou la ciguë jusqu'à la lie. Mais le premier paragraphe est extrêmement intéressant. Il met les pieds dans le plat dès le début en disant « Nous avons subi une défaite complète, que rien ne vient atténuer. » En anglais, je le dis parce que les mots comptent, « Total unmitigated defeat », l'écroulement complet. Or, tout le monde se réjouit, tout le monde a applaudi. Et vous rappelez que Daladier avait dit « les cons » quand on était venu, lui, l'applaudir à la sortie de l'avion. Bref, tout le monde applaudit et Churchill dit « c'est une défaite totale ». Et à la fin, il dit ce que vous venez de citer, mais quelques phrases avant, il a une phrase très intéressante. « Ne croyez surtout pas que c'est la fin, ce n'est que le début de ce qu'il va falloir payer ». Là aussi, je le dis en anglais parce que c'est une allusion biblique. Et Churchill adorait les allusions bibliques qui parlaient justement à tous les gens. « The beginning of the reckoning ». The reckoning, c'est quand on vous présente la note, il va falloir payer. Donc, on commence seulement à payer.
Oui, mais 1938, c'est l'année décisive pour lui. Il commence à être identifié. Beaucoup d'Anglais n'ont pas compris le sens de sa traversée du désert. Lui-même était souvent saisi de dépression. Qu'est-ce qui fait un vrai homme d'État ? Il est imprévisible, il est plein de contradictions, vous n'avez cessé de le dire. C'est les circonstances qui vont le révéler, là, Antoine Capet.
Oui, alors, donc, ce discours que tout le monde considère comme un discours qui, du coup, met complètement fin à sa carrière. Il n'a plus aucun espoir, évidemment, d'être pris comme ministre par Chamberlain dans le gouvernement conservateur. En fait, ce discours, vous avez intitulé votre édition « Le prophète », ce discours est absolument prophétique parce que, de fait, on va boire la coupe jusqu'à la lie, sauf, bien sûr, au dernier moment, le sursaut, et on va finir par gagner. Mais la descente aux enfers de l'apaisement est absolument décrite, magnifiquement décrite dans ce très long discours. Et les faits vont lui donner raison le 15 mars 1939, lorsque Hitler envahit le reste de la Tchécoslovaquie.
Donc ce n'est pas nécessairement la constance d'un prophète qui est en fait un homme d'État. L'homme d'État, c'est celui qui est en concordance avec le temps. La Grande-Bretagne va rendre un hommage appuyé à Churchill pour le 50e anniversaire de ses obsèques.
Drapé de l'Union Jack et décoré des seuls insignes de la jarretière, le cercueil traverse Londres selon un cérémonial réservé jusqu'alors au souverain. Le Lord Mayor et les plus hautes personnalités de 112 nations précèdent les membres de la famille royale pour assister à l'office solennel à l'issue duquel le cortège se reformera. C'est sur la Tamise que s'achèvera la cérémonie officielle, selon le désir de celui qui fut premier lord de l'amirauté, avant l'inhumation privée dans le petit cimetière de Marlborough.
L'équipe aujourd'hui, Jacques Sigal, Hélène Langlois, Franck Olivard, Martin Penet, Marion Philippe, Frédéric Martin.